Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 2019, La fabrique du crétin digital est un essai de Michel Desmurget, docteur en neurosciences et directeur de recherche à INSERM. Dans ce livre de vulgarisation scientifique au ton volontairement combatif, il examine la place massive des écrans dans la vie des enfants et des adolescents. Télévision, smartphone, tablettes, jeux vidéo et usages connectés sont envisagés moins comme des outils isolés que comme un environnement qui concurrence le sommeil, la lecture, les échanges familiaux, le jeu libre et les apprentissages scolaires. La thèse centrale est que le volume actuel des usages numériques juvéniles produit des effets défavorables mesurables sur la santé, le comportement et certaines fonctions cognitives. Desmurget rassemble et interprète un vaste ensemble de travaux internationaux afin de contester le récit selon lequel une exposition précoce aux écrans rendrait spontanément les jeunes plus compétents. Son objectif est à la fois informatif et préventif, fournir aux adultes responsables des repères pour comprendre les risques, réduire les usages excessifs et replacer le développement de l'enfant au centre des choix éducatifs. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le temps aux écrans comme coût de substitution dans la journée des jeunes. Le point de départ de Desmurget est quantitatif, les durées cumulées consacrées aux écrans atteignent des niveaux qui occupent une part considérable des journées enfantines et adolescentes. Il ne présente pas cette donnée comme un simple problème de calendrier ou de discipline domestique. Son raisonnement repose sur un mécanisme de substitution. Une heure consacrée à un flux numérique ne peut pas, au même moment, servir au sommeil, à la conversation, à la pratique physique, à la lecture, au travail scolaire ou aux jeux autonomes. Ce sont précisément ces activités concurrentes qui soutiennent une grande partie du développement intellectuel, social et corporel. Le livre invite donc à dépasser la question simpliste de la nocivité intrinsèque de chaque appareil. Même un contenu qui semble anodin peut devenir problématique si sa fréquence réduit durablement les expériences nécessaires à la maturation. Cette perspective explique la place importante accordée aux estimations de consommation selon les âges. Elles servent à rendre visible ce qui reste souvent dispersé entre télévision, téléphone, plateformes vidéo et jeux. Pour Desmurget, le danger principal vient de la normalisation de cette accumulation. Les familles peuvent sous-estimer le total réel parce que chaque session paraît courte et parce que les écrans sont désormais intégrés à presque tous les moments de la vie quotidienne. Deuxièmement, attention, langage et mémoire face aux sollicitations numériques répétées. Une dimension essentielle de l'ouvrage concerne les capacités cognitives qui permettent les apprentissages attention soutenue, langage, mémorisation et concentration. Desmurget conteste directement la promesse populaire selon laquelle les jeunes générations deviendraient naturellement plus intelligentes ou plus efficaces parce que leur univers est numérique. Son argument ne suppose pas que tout usage écran détruit automatiquement une compétence. Il insiste plutôt sur les conditions concrètes dans lesquelles les capacités se développent. Le langage progresse grâce aux interactions riches avec des adultes, aux échanges réciproques et à une exposition durable à des formes variées de discours. La concentration, elle, demande des périodes où CMO peut maintenir un effort sans succession rapide de stimulation. Or, de nombreux environnements numériques privilégient vitesse, interruption, récompense immédiate et changement incessant de contenu. Le livre relie aussi ces effets à la réussite scolaire, car apprendre exige du temps continu, de la répétition et une mémoire disponible. Cette analyse est cependant à situer dans un débat plus large. Certains chercheurs rappellent que le contenu consulté, la médiation adulte et le contexte social modifient les effets observés. La force de Desmurget réside moins dans une théorie de chaque application que dans son rappel ferme « Aucune technologie ne remplace mécaniquement les interactions humaines et les pratiques culturelles qui nourrissent les apprentissages ». Troisièmement, sommeil, sédentarité et santé, les effets indirects mais structurants. Desmurget traite les écrans comme une question de santé publique autant que comme une question scolaire. Son analyse met en avant plusieurs voies indirectes mais concrètes par lesquelles les usages intensifs peuvent peser sur le bien-être des jeunes. La première est la sédentarité, un temps prolongé devant un appareil réduit souvent les occasions de bouger et favorise une organisation quotidienne moins active. La seconde concerne les habitudes alimentaires, notamment lorsque le visionnage se combine avec le grignotage ou avec une exposition à des contenus promotionnels. La troisième est le sommeil. Les écrans placés en soirée peuvent retarder le coucher, maintenir une stimulation cognitive et rendre plus difficile une séparation nette entre la journée et le repos. Un sommeil insuffisant ou irrégulier affecte ensuite humeur, vigilance, mémoire et disponibilité pour les apprentissages. Le raisonnement du livre est important parce que ces dimensions interagissent. Une fatigue accrue peut réduire les activités physiques, fragiliser la concentration en classe et rendre les loisirs à récompense immédiate encore plus attrayants. Plutôt que de réduire le problème à une seule cause médicale, Desmurget décrit ainsi une chaîne de comportements qui se renforcent mutuellement. Cette approche conduit à des réponses pratiques, protéger les horaires de coucher, éloigner les appareils des espaces de nuit, préserver les repas et réserver des plages quotidiennes sans écran. Quatrièmement, comportement, vulnérabilité psychique et exposition à des contenus inadaptés. Le livre associe la généralisation des écrans à des risques comportementaux et psychiques, dont agressivité, humeur dépressive et conduite à risque. La démonstration ne repose pas sur une idée simpliste selon laquelle un écran fabriquerait à lui seul un trouble précis. Elle souligne plutôt que les médias numériques donnent accès, avec une grande fréquence et parfois sans encadrement, à des contenus violents, anxiogènes, sexualisés ou fortement commerciaux. Ils peuvent également encourager des comparaisons sociales permanentes et maintenir les adolescents dans une logique de disponibilité continue. Pour Desmurget, la vulnérabilité vient de la combinaison entre une exposition précoce, des usages prolongés, des contenus conçus pour retenir attention et des moments de vie où les capacités de recul sont encore en construction. Les conséquences possibles doivent donc être comprises comme des risques probabilistes et contextuels, non comme un diagnostic applicable à chaque enfant. Cette nuance est essentielle pour éviter la culpabilisation des familles tout en prenant la prévention au sérieux. Le livre appelle les adultes à reprendre un rôle de médiation, connaître les pratiques réelles, fixer des règles cohérentes, discuter des contenus et éviter que le téléphone individuel ne devienne un espace totalement soustrait au regard éducatif. Dans cette perspective, la régulation ne relève pas seulement de la technique, mais de la qualité du cadre relationnel et familial. En dernier lieu, une critique du discours sur les prétendus bénéfices éducatifs du numérique. La fabrique du crétin digital se distingue par sa contestation du discours promotionnel qui présente le numérique comme une amélioration automatique de l'éducation. Desmurget examine les affirmations relatives au cerveau multitâche, à la créativité spontanée, au travail collaboratif et à une supposée adaptation naturelle des enfants au flux d'informations. Sa position est que la familiarité avec une interface ne prouve ni une compréhension profonde, ni une capacité accrue à raisonner, ni une meilleure maîtrise des savoirs. Savoir faire défiler des contenus, utiliser une application ou jouer rapidement ne se confond pas avec lire attentivement, argumenter, calculer ou résoudre un problème complexe. Le livre met aussi en cause les intérêts économiques qui accompagnent ce récit optimiste. Fabricants, plateformes et annonceurs bénéficient de usages prolongés, tandis que les coûts éducatifs et sanitaires sont supportés par les familles, les écoles et les systèmes de soins. Cette critique explique le ton accusateur de essai. Elle ne signifie pas que tout outil numérique doit être exclu de la classe ou du foyer. Elle exige plutôt une justification pédagogique précise, quel apprentissage est visé, quelle activité remplacée, quel accompagnement adulte et quelle durée sont prévues. La pertinence du numérique dépend alors de son usage réel, non de son image de modernité. En conclusion, cet essai intéressera en premier lieu les parents, les enseignants, les éducateurs et les responsables publics qui cherchent un cadre argumenté pour réfléchir aux usages numériques des mineurs. Il sera également utile aux lecteurs qui souhaitent remettre en question une vision automatique du progrès technologique dans la famille et à l'école. Son bénéfice pratique est de transformer une inquiétude diffuse en questions concrètes. Combien de temps est réellement consacré aux écrans? Quelles activités sont évincées? À quel moment les appareils sont-ils utilisés et quelle médiation adulte existe autour des contenus. La lecture peut ainsi aider à établir des règles plus cohérentes sur les repas, le sommeil, les équipements individuels et les temps sans connexion. Sur le plan intellectuel, le livre oblige à distinguer aisance technique, apprentissage et développement global. Il rappelle que les conditions matérielles de l'attention, de la conversation et du repos comptent autant que le contenu affiché. Par rapport à de nombreux ouvrages sur la parentalité numérique, la fabrique du crétin digital se démarque par son ambition de synthèse scientifique, par la centralité accordée aux effets cumulés et par un positionnement nettement alarmiste. Ce ton peut paraître excessif à certains lecteurs, notamment parce que le débat scientifique demande de considérer aussi le type de contenu et le milieu social. Mais cette vigueur constitue aussi sa fonction, placer la charge de la preuve sur les promesses numériques et rappeler que la protection du développement enfantin ne peut pas être laissée aux intérêts des plateformes. Si vous souhaitez soutenir Michel Desmurget, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.